Bienvenue sur le podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. C'est le 76e rendez-vous aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous un peu particulier dans lequel nous allons parler de l'amour, aimer vos ennemis. Je sais que c'est un titre qui fait un peu bizarre, mais vous verrez qu'aimer c'est bon pour la santé, entre autres. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Et avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je voudrais remercier Camo, qui m'a écrit en anglais, mais qui m'a mis un commentaire sur Heureux au présent et qui me dit que c'est vraiment ce qu'il cherchait depuis un moment. Quel matériel, dit-il avec un peu d'admiration, ça existe sur un site internet et il me remercie beaucoup et remercie l'administrateur de ce site. Alors je voudrais vraiment remercier Camo pour ce commentaire et j'en profite pour vous dire qu'en fait je sais que plusieurs d'entre vous apprécient parce que vous me donnez des messages privés, vous m'envoyez des emails ou parfois ou essentiellement sur Facebook en MP comme je disais. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les robots de référencement ne voient pas ces messages privés et ces emails. Par conséquent, ils ne vont pas participer à faire que Heureux au présent soit davantage connu. J'ai donc besoin que vous mettiez vos commentaires, vos questions, vos remarques directement sur le blog Heureux au présent, de manière à ce que je puisse faire en sorte, ou vous puissiez faire en sorte que Heureux au présent soit davantage référencé, davantage connu, davantage écouté, même si évidemment les chiffres de l'audience augmente mois après mois. Donc je vous remercie de jouer le jeu et je compte sur vous. Et je voudrais que vous sachiez que vous êtes les acteurs qui peuvent faire que Heureux au présent se développe davantage. Je vous remercie d'avance. On attaque le sujet du jour. Quand on entend « aimer vos ennemis », on imagine immédiatement qu'il s'agit d'une phrase réservée à des croyants ou à des religieux, puisque c'est Jésus qui l'a prononcée. Pourtant, cette phrase s'adresse à nous tous parce qu'elle est véritablement un booster pour le bonheur et la santé. Aimer est bon pour la santé. Voltaire disait « Je suis heureux parce que c'est bon pour la santé » et nous pourrions traduire cette phrase de Voltaire en disant « Je choisis d'aimer, je veux aimer parce que c'est bon pour la santé. » D'où l'intérêt d'aimer vos ennemis. L'amour procure de nombreux avantages. C'est valable pour la santé mentale, la santé physique, la santé psycho-émotionnelle. Et d'ailleurs, on peut parler du stress en pensant aux neurotransmetteurs ou aux neuromédiateurs qui sont sécrétés par notre cerveau quand on a décidé d'aimer. Je ne parle pas uniquement de l'amour conjugal, même si effectivement on touche à des summums ou à des pics de production de ces neurotransmetteurs, mais c'est aussi valable à partir du moment où l'on aime quelqu'un, quel que soit le quelqu'un. On en profite quand on est en bonne compagnie, avec des gens avec lesquels on estime vivre des moments chouettes, il y a une production bénéfique de ces neurotransmetteurs et de ces hormones. La première, on va parler des hormones, on va parler de la dopamine. C'est une des plus connues. Elle est associée au bonheur et au désir. Le fait d'aimer nous conduit à sécréter de la dopamine. Et puis ensuite, on peut parler de l'endorphine. Il y a cette endorphine qui est un neurotransmetteur ou une hormone qui fait que on se sent tellement bien qu'il provoque une baisse de la capacité à percevoir certaines réalités qui nous entourent, dont les douleurs. C'est vraiment une hormone vivement recommandée pour les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, etc. L'endorphine, elle est sécrétée quand on pratique certaines activités physiques ou artistique, ou même du rire, hein. On recommande le yoga du rire qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, aller voir un spectacle de comique, toute activité plaisir est concernée par cette sécrétion d'endorphines. Et pendant la pratique de ces activités choisies, on observe une baisse de la perception de la douleur chez les personnes qui souffrent physiquement. C'est dû à l'endorphine. C'est également valable quand ces personnes sont en compagnie de personnes aimées. Donc, l'amour est bon pour la santé. Quant à la sérotonine, elle est considérée comme une hormone qui débarrasse des tensions. Elle est bonne pour réduire le stress. C'est comme si on vivait une séance de relaxation quand on sécrète de la sérotonine. On produit ce neurotransmetteur en aimant quelqu'un, tout simplement. On bascule donc dans une direction anti-stress. Et puis, il y a une hormone qui est un peu moins connue que celle que je viens de mentionner et dont je voudrais vous parler, c'est l'ocytocine. Quelque part, c'est un peu dommage qu'elle soit moins connue parce que l'ocytocine est une hormone qui est considérablement importante dans le bonheur. Le docteur Michel Simès en parle dans une chronique tenue sur RTL en septembre 2020, où il dit, je cite, « Il s'agit de l'hormone de l'attachement, de la tendresse. En quelque sorte, l'hormone reine de l'amour. L'ocytocine entre en jeu dès les premiers instants de la vie entre la mère et l'enfant, ou, pour être plus juste, entre le bébé et l'adulte qui s'occupe de lui. C'est un élément clé de la relation qui s'élabore et de laquelle vont dépendre nombre de choses liées à la capacité à aimer une fois parvenu à l'âge adulte. Et parmi ces choses, on trouve la fidélité, la prédisposition pour un engagement durable. » Fin de citation. Il ira donc de soi qu'un taux d'ocytocine sera élevé chez des personnes qui décideront d'aimer. Qu'il s'agisse d'aimer un ami ou un ennemi, le processus de l'amour provoquera la sécrétion d'ocytocine en plus des autres hormones que j'ai mentionnées à l'instant. Donc je trouve intéressant de voir que dans notre manière de regarder l'amour, nous avons tendance à considérer que la personne qui est aimée a de la chance. Elle est heureuse parce qu'elle est aimée. Et vous voyez que finalement, en regardant la notion d'amour avec cette sécrétion hormonale, eh bien oui, la personne qui est aimée est heureuse, mais la personne qui aime est heureuse également, elle aussi, parce que aimer participe au bonheur de celui qui aime. Finalement, aimer, c'est bon pour soi-même. Nous avons dit que Voltaire disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », mais aimer est bon pour la santé aussi. C'est bon pour le bonheur pour soi et pour soi d'abord. Par conséquent, quand vous avez pris la décision d'aimer quelqu'un, considérez que c'est bon pour vous-même d'abord. Tant mieux pour la personne qui bénéficiera de votre amour, mais d'abord, tant mieux pour vous. C'est génial que vous ayez pris la décision de vous mettre en mouvement pour aimer, pour offrir de l'amour, pour partager de l'amour. Une étude a montré qu'il suffit de prendre ses enfants dans ses bras, ou une personne que l'on aime si vous n'avez pas d'enfant, pour déclencher une production d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine et des autres hormones liées au bonheur. La personne qui est prise dans les bras sécrète également certaines hormones de bonheur si elle apprécie ce moment, mais considérez que cette étude met en avant que c'est la personne qui prend dans ses bras qui sécrète ces hormones. C'est vous qui prenez quelqu'un dans vos bras, qui sécrétez l'hormone avec une véritable intention d'amour. Eh bien, vous serez le premier bénéficiaire de cet amour partagé, de cet amour offert. En tout cas, accueillons l'amour, et c'est bien fait pour nous-mêmes, en aimant nos ennemis aussi. En faisant cela, nous nous faisons du bien. Nous déclencherons du bonheur en nous-mêmes. D'ailleurs, prenez quelques instants pour mesurer une partie du travail effectué par les neurotransmetteurs de votre organisme. Visualisez les hormones, chacune de celles qui vous procurent du plaisir. Donnez-leur une forme, une couleur que je vous laisse choisir, même si vous n'avez jamais vu de neurones d'hormones ou de neurotransmetteurs dans un microscope, excusez-moi. À partir de là, quand vous les avez visualisés, dites-vous que vous voulez participer à leur sécrétion en entrant dans une décision d'aimer quelqu'un. À ce stade de notre rendez-vous, on peut se poser la question, pourquoi aimer quelqu'un que l'on n'aime pas? Quelqu'un pour lequel on ressent de l'indifférence, voire de la haine. La première raison a déjà été dite. C'est parce que aimer est bon pour soi. Qu'importe le bénéficiaire de l'amour. Désolé pour l'ennemi, si mon ennemi m'écoute, si je choisis de l'aimer, je choisis de l'aimer pour moi-même, parce que j'ai compris qu'aimer est bon en soi, c'est bon pour moi. Cela me permet de vivre plusieurs choses, de baisser le stress, d'augmenter mon bonheur perçu, d'augmenter mes potentiels, de faire grandir mes aptitudes, de regarder la vie plus loin, d'avoir un regard sur la vie plus en couleur, une perception des reliefs du quotidien plus intense, et puis de ressentir plus de goût et plus de sensations, et la liste peut se poursuivre. Choisir d'aimer est bon parce que c'est bon pour soi. Deuxième raison qui pourrait nous donner des éléments de réponse à pourquoi aimer quelqu'un que l'on n'aime pas ou quelqu'un pour lequel on ressent de l'indifférence, voire de la haine. Deuxième raison, c'est que aimer quelqu'un, qu'il soit un ennemi ou pas, augmente l'estime de soi. Parce que l'amour est véritablement un de ces outils qui permet de recevoir quand on a donné. D'où l'intérêt de nouer des liens avec les personnes qui nous entourent quand on les aime ou qu'on ne les aime pas. À vrai dire, si vous avez un ennemi, j'espère que ce mot ne résonne pas avec des réalités douloureuses trop fortes en vous, et si c'est le cas, ben je vous encourage vivement à vous faire accompagner, à consulter. Eh bien, il peut s'agir d'un collègue, quelqu'un que vous n'arrivez pas à supporter. C'est peut-être aussi un voisin, membre de votre famille, que sais-je. Et vous savez que cela impacte votre estime de vous-même. Ah, vous ne le saviez pas. Eh bien, maintenant, vous le savez. Vous vous aimerez davantage. Et vous aurez davantage d'estime pour vous-même si le nombre de vos ennemis diminue. Vous aurez aussi davantage d'estime pour vous-même quand vous vous rendrez compte que vous avez jeté des ponts, tissé des liens, envoyé des signaux pour créer des relations. Même si les signaux sont rejetés, vous aurez essayé, vous aurez tendu la perche et vous aurez fait le pas pour que l'humain que vous êtes redonne de la place à l'humain avec un grand H. Et vous savez combien l'humain avec ce grand H n'existe que quand il est en relation. Et qui plus est, en relation d'amour. Des chercheurs ont fait une étude qui met en évidence la chose suivante. Des personnes à la retraite qui passent environ 40 heures par an à venir en aide aux moins favorisés, en participant à des actions telles que la soupe populaire ou le soutien aux devoirs scolaires pour des jeunes, eh bien ces personnes-là présentent un risque de décès de 30% inférieur à celui de personnes de leur âge, moins impliquées ou pas, dans un engagement social. Je ne voudrais quand même pas que l'on ait l'impression qu'aimer soit attaché à un sentiment ou une émotion. Aimer est une action, c'est un verbe d'action. Aimer, c'est se mettre en mouvement vers une des plus belles et bénéfiques réalités humaines. Elle est d'abord bénéfique pour la personne qui se met à aimer, comme on l'a dit. Et finalement, oubliez vos ennemis et considérez qu'une action posée est un acte d'amour à partir du moment où cette action a pour but de construire. Comme dans l'exemple que je viens de donner avec les personnes âgées, le fait de prendre soin de quelqu'un, quelle que soit la personne, sans que vous ressentiez quelque émotion que ce soit en conscience, est un acte d'amour. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'oublier vos ennemis. Considérez l'amour comme un acte, une action. Que la personne soit d'accord ou pas de recevoir l'acte que vous mettez en place, eh bien, c'est complètement égal en fait. Mettez-vous en mouvement d'amour, que ce soit en lui rendant service ou en étant à son écoute. Vous pouvez le faire en allant à sa rencontre, sachant que quoi que vous fassiez, à partir du moment où c'est motivé par une pensée profonde, positive, de faire du bien, de donner du bien, de donner de vous, eh bien vous entrez dans une démarche d'amour. Ce raisonnement est également valable pour vous. Quand vous vous douchez, que vous prenez soin de vous, que vous vous alimentez correctement, que vous décidez de faire du sport, de prendre une bonne résolution, comme on l'a vu la semaine dernière, vous n'avez pas besoin de ressentir des émotions, des sentiments d'amour à votre égard. Poser un acte bénéfique pour vous-même est un acte d'amour. Comment faire pour aimer ses ennemis ? Je vais répondre à cette question en partie dans ce rendez-vous d'aujourd'hui et je prendrai le reste pour la semaine prochaine puisque je voudrais vraiment vous donner les moyens d'y parvenir. Mais justement, certaines questions me viennent de cette nature-là. Comment faire pour aimer ses ennemis ? Je ne ressens rien de positif pour eux. Et comment aimer des personnes qu'on n'aime pas, pour lesquelles on ne ressent rien ? Ou encore, aimer des personnes que l'on ne connaît pas ? À vrai dire, j'aime beaucoup ce genre de questions parce qu'elles signifient que des personnes s'interrogent avec une profonde pertinence, un profond besoin de trouver quelque chose de costaud dans la réponse à cette question. Ne vous préoccupez pas des émotions, encore une fois. c'est faire fausse route que de se centrer sur elle. Quand j'aime un ennemi, je pense en même temps que ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, qu'il n'est pas dans mon camp et que sa tête ne me revient pas, voire même qu'il m'a fait souffrir, que je refuserais de poser des actions bénéfiques à son égard. Ce qui signifie que même si je ne supporte pas mon collègue, mon voisin, je lui rendrai service, par exemple. Je ne connais personne qui ne soit qu'une suite de choses négatives et désagréables. Ça n'existe pas sur le plan rationnel. Il ou elle est peut-être pénible, agaçant, chronophage, envahissant, et il ou elle est aussi serviable, attentionné, source de bonne humeur, d'énergie, dévoué, compétent, etc. Par conséquent, c'est aussi intéressant pour soi-même de parvenir à faire le travail d'étape qui consiste à accumuler les aspects que je considère négatifs chez une personne avec ceux qui sont positifs, selon moi. C'est un exercice qui peut être difficile, mais entendez que je vous demande de le faire sans ressentir quelque émotion que ce soit. Utilisez uniquement vos yeux et vos oreilles en déconnectant vos émotions pour constater ce que vous voyez de positif chez cette personne ou chez ces personnes. En général, on utilise le négatif pour expliquer les raisons pour lesquelles on n'aime pas cette personne. Elle nous a fait ceci et cela, elle nous a dit ceci ou cela, ou elle n'a pas fait ni ceci ni cela. C'est la raison pour laquelle il est difficile de l'aimer ou qu'elle n'est pas aimable. Prenez conscience qu'il y a des personnes que vous détestez et qui sont entourées de personnes qui les aiment considérablement. Elles peuvent être encensées et avoir autour d'elles des amis, de la famille ou un amoureux, une amoureuse qui les adore. Donc, qui a raison ? Ceux qui les aiment ou ceux qui les détestent ? D'un point de vue rationnel, vous comprenez que les personnes que vous n'aimez pas sont aimables au sens étymologique. Je voudrais passer un exercice maintenant et laisser la suite de la réponse à la question « Comment arriver à aimer quelqu'un que l'on n'aime pas ?» ou qui nous est indifférent ou même que l'on déteste pour la semaine prochaine et vous proposer un exercice. Donc, prenez votre cahier de vie et écrivez le nom des personnes qui vous hérissent le poil ou vous laissent indifférent. Prenez en priorité ceux que vous savez bénéfiques pour vous d'apprendre à aimer. Donc, il peut y avoir des personnes pour lesquelles vous dites « J'aimerais commencer par celle-là parce que ceci ou cela. » Commencez par votre belle-mère, si c'est le cas. Ça répondra à un des clichés classiques. Dans mon cas, ça ne marcherait pas parce que j'aime ma belle-mère. Mais quoi qu'il en soit, notez chaque prénom qui vous vient à l'esprit. Et ensuite, donnez une hiérarchie, une forme de priorité. Je ne voudrais pas que vous passiez votre temps à ne penser qu'à une personne. Alors, attaquons directement avec un groupe, donc 4, 5 ou plus de personnes, ça fera bien l'affaire. Et souvenez-vous que le premier bénéficiaire de cette démarche d'amour, c'est vous. Et oui, c'est vous. Alors, avec ce groupe de personnes, une fois que vous avez dressé votre liste et fait les priorités, notez tous les défauts que vous trouvez à ces personnes. Veillez à n'en manquer aucun. Soyez méticuleux. Vous ne les aimez pas parce que vous trouvez des choses pénibles en elles ou un manque de qualité. Alors cherchez et ajoutez le plus de détails possible. Tentez de trouver des exemples aussi qui illustrent ce qui vous gonfle chez elles. Et quand c'est fait, et bien passez ensuite à la liste des qualités. Tout ce qui est chouette chez ces personnes. Attention, vous n'avez pas le droit de toucher à leur physique, ni même pour les défauts. Que ces personnes soient belles ou moches ne leur appartient pas. Elles n'ont pas choisi leur nez, leurs yeux, leur voix ou la forme de leur corps. Par contre, vous pouvez aller dans le détail sur leurs vêtements, leur choix, leurs compétences, leurs paroles, leurs décisions, leurs attitudes, etc. Cherchez à être le plus détaillé possible, là encore. Après avoir fait ce travail, regardez vos deux colonnes et cherchez des personnes que vous aimez qui ont les qualités et les défauts des personnes que vous avez mises là sur votre liste, dans les personnes que vous n'aimez pas. C'est bien ce que je vous ai demandé. En regardant les qualités et les défauts de vos ennemis, des gens que vous n'aimez pas, maintenant visualisez qui dans votre entourage a ces qualités, dans les personnes que vous aimez, et qui dans les personnes que vous aimez a ces mêmes défauts que ces gens que vous n'aimez pas. Et soyez honnête et précis parce que je vous ai à l'œil. Posez ensuite votre cahier et chaque jour, relisez les prénoms que vous avez notés en choisissant d'aimer ces personnes avec leurs qualités et leurs défauts. Vous savez qu'elles ne changeront pas pour vous plaire, ça n'aurait pas de sens. Donc choisissez de les accepter comme elles sont. Et gardez-le pour vous, ne leur en parlez pas. C'est entre vous et vous-même. Faites-vous du bien toute la semaine en visualisant les hormones sécrétées quand vous pensez à une qualité d'une personne que vous n'aimez pas et que vous avez choisi d'aimer. Si vous faites cet exercice jusqu'au bout, félicitez-vous. Serrez-vous la main ou prenez-vous dans les bras parce que vous aurez fait un beau pas en faisant cet exercice. Vraiment, je ne plaisante pas, c'est un acte d'amour que d'avoir fait ce premier exercice. Donc chapeau. Je vais vous laisser souffler après ce gros travail sur vous-même et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.